Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Agamemnon approche de Mycène, sa ville. Cassandre lui a prédit sa mort s'il y entre, mais il ne l'a pas écouté. Pourtant sur place, une femme l'attend, pleine de haine. C'est la reine, Clytemnestre. Mais quelque chose se trame au palais d'Agamemnon. La nourrice de son fils, Oreste, vient de faire discrètement s'échapper l'enfant de Mycène sous les yeux d'Ulysse et d'Hermès. Clytemnestre a assassiné Agamemnon, puis Cassandre. Oreste a réussi à échapper au massacre, mais sa sœur Électre est désespérée par ce bain de sang. Les femmes, arrivées en pleurs sur le tombeau d'Agamemnon, se sont mises en cercle autour de la misérable sépulture. Elles chantent les louanges du roi assassiné. Elles versent du vin, de l'huile sur la tombe en répétant « Ces offrandes pour toi, de la part de la reine Clytemnestre, ô grand roi !» Derrière son buisson, Oreste n'en revient pas. Il contient sa colère avec peine. Il murmure à l'oreille de Pylade. Elle a osé envoyer ses esclaves ici? Elle a besoin d'apaiser le courroux du mort, sans doute. L'une des femmes, peut-être la plus jeune d'entre elles, s'approche. Sous ses habits en lambeaux, et malgré la saleté qui macule son visage, on devine sa beauté. Elle pose son regard clair sur la tombe. Elle implore. « Oh Hermès, je t'en prie, porte mon message aux dieux souterrains et aux ombres des enfers, qu'il m'aide à venger mon père, mort d'une manière indigne. Depuis sa disparition, je suis devenue une esclave. Ma mère, sans cœur, et son amant m'ont vendue à un paysan, mais ils n'ont pas réussi à me briser. Je saurai résister jusqu'à ce qu'ils soient punis de leurs actes. » Puis elle s'effondre en pleurs sur la tombe de son père. Les autres femmes l'entourent en silence. Elles n'osent la réconforter. Comment pourrait-elle la réconforter? Oreste, lui, le peut, car il vient de reconnaître sa grande sœur, Électre. Des larmes de joie coulent sur ses joues. Il s'apprête à sortir de sa cachette quand Pylade le retient par le bras. Sur la tombe, Électre a découvert la boucle de cheveux. Une boucle très particulière, sombre, avec des reflets roux. Elle s'en saisit en tremblant. Elle cherche du regard autour d'elle. Ses cheveux, ils ont la même couleur? Ils ne peuvent appartenir qu'à mon frère, Oreste. Et qui d'autre oserait honorer Agamemnon? Mais où est-il? Peut-il m'aider à venger mon père? Le jeune homme ne résiste pas, il bondit. Oui, ma sœur, c'est bien moi. Électre pousse un cri et se jette dans les bras d'Oreste. Ils s'enlacent, ils s'étreignent, ils se touchent le visage, les cheveux, le corps, ils se prennent les mains. L'intensité de leur retrouvaille émeut profondément Ulysse. Tout son corps ressent cet appel. Il s'imagine dans les bras de Pénélope. Et il s'imagine serrant contre sa poitrine un autre beau jeune homme, de l'âge d'Oreste, son fils Télémaque. Des êtres qui se sont tant manqués, affamés de tout cet amour. Électre, elle, semble soudain prise de doute. Elle repousse le jeune homme, le regarde. Muette, elle fronce les sourcils. Puis, d'un geste brusque, elle arrache le bandeau qui lui tient les cheveux. Alors, le sourire refleurit sur son visage. D'un doigt, elle suit le parcours d'une cicatrice sur son front, que le bandeau dissimulait. Un petit rire presque enfantin lui échappe. Le cerf, tu t'en souviens? Tu es tombé en le poursuivant. Tu le trouvais si beau, tu voulais l'attraper. Tes petites jambes se sont prises dans une racine et tu en as gardé cette cicatrice au front. Mon frère, oui, plus aucun doute, tu es bien mon frère. Oreste sourit lui aussi au milieu de ses larmes. J'étais petit. Mais je n'ai pas oublié cette course, ni ma chute. Le sang avait coulé, je m'en souviens. Ces derniers mots résonnent soudain, étrangement, comme s'ils évoquaient un autre souvenir. Les sourires d'Oreste et d'Électre disparaissent. Ils tournent ensemble la tête vers la tombe de leur père. « Tu sais, ma sœur, qui est l'assassin de notre père ? Dit Oreste d'une voix hésitante. Électre acquiesce d'un signe de tête. Elle murmure. Elle nous a envoyés ici à cause d'un cauchemar qu'elle a fait cette nuit. Elle a rêvé qu'elle mettait au monde un serpent, qu'elle l'enveloppait dans ses langes, qu'elle l'allaitait et que tout à coup il lui mordait le sein et lui insufflait un venin mortel. Les devins ont interprété ce songe. Ils ont dit que c'était l'ombre de notre père qu'il fallait calmer. Alors, elle nous a demandé de venir ici, lui rendre hommage de sa part. Les autres femmes entourent le frère et la sœur qui ne se lâchent plus les mains. Les rayons brûlants du soleil les auréolent d'une blancheur irréelle. Leurs sueurs, leurs larmes se mêlent sur leur peau. « Comme ils se ressemblent !» murmure Ulysse. Hermès lui jette un coup d'œil et dit doucement « Ils m'ont invoqué tous les deux. Il va falloir que je me mette au boulot, moi. » Jamais le nom de leur mère n'a été prononcé entre les deux jeunes gens. En tuant leur père, Clytemnestre a perdu jusqu'à son nom aux yeux de ses enfants. Oreste répond à Électre. Son rêve dit la vérité, elle le sait bien d'ailleurs. Le serpent qu'elle a mis au monde, le serpent qui va la tuer, c'est moi. Oreste ne prononce pas un mot. Il essaye de ne rien montrer, mais son visage est bouleversé. Lorsque Mycène apparaît au détour du chemin, ses murailles splendides sont teintes des couleurs du soleil couchant. On dirait qu'elles ruissellent de sang. Oreste revoit la ville de son enfance pour la première fois depuis sa fuite 8 ans plus tôt. Il a aimé la moindre de ses ruelles, le plus petit de ses recoins. Il aimait gravir les pentes à toute vitesse pour accéder tout en haut au palais de ses parents et se jeter en nage dans les bras de sa nourrice. Il aimait s'installer au pied des orangers, écouter les vieux, les vieilles se donner des nouvelles de cette guerre qui, là-bas, sous les murailles de Troie, retenait les hommes vigoureux loin de la cité. Son père Agamemnon semblait, dans leur bouche, le plus grand de tous les héros. Oreste, qui n'avait qu'un an lorsqu'il est parti, l'imaginait gigantesque. Le plus grand de tous, avec la barbe la plus longue et le courage le plus immense de toute l'armée. Combien de nuits a-t-il ainsi, petit garçon, rêvé de ce père absent ? Les yeux grands ouverts, dans le noir, puis se faufilant hors de sa chambre et se postant sur les murailles pour scruter les étoiles. Ensuite, tout s'est précipité avant de s'écrouler. Il a aperçu la procession de l'armée de son père dans la plaine. Il a essayé de l'approcher, d'attirer son regard, son attention, en vain. « Sois patient, tu le verras demain », lui avait dit la nourrice. Alors dépité, il était parti jouer. Un peu plus tard, il a accepté de descendre cette muraille le long de cette corde pour faire plaisir à Nanae. Et voilà qu'il revient dans cette ville dont il a été arraché si violemment. Sans un mot, Pylade pose la main sur l'épaule de son ami. Et puis, pour détourner le cours de ses pensées, il lui dit « J'espère que les esclaves qui accompagnent ta sœur tiendront parole et qu'elles garderont le secret de ton retour. J'en suis certain. Elles détestent bien trop ma mère et son nouveau mari pour me trahir. » Les deux hommes ont repris leur route. Bientôt, ils pénètrent dans la ville. Il y a foule dans les rues de Mycène ce soir-là. La cité s'apprête à honorer la déesse Héra en festoyant en son honneur et en lui offrant divers sacrifices pour attirer sa protection. Personne ne prend garde aux étrangers qui franchissent l'impressionnante porte des lions à 5 minutes d'intervalle. Car derrière Oreste et Pylade, Hermès et Ulysse, toujours déguisés en marchands de miel, entrent eux aussi dans Mycène. Ils gagnent discrètement les cuisines du palais, tandis que la reine Clytemnestre accueille les deux premiers voyageurs. « Nous étions en route pour Argos, » raconte Pylade, « lorsque nous avons rencontré un messager qui se dirigeait vers Mycène. Cet homme avait la roue de son char brisée et il se trouvait immobilisé sur le bas-côté. Nous avons proposé notre aide et il nous a demandé de porter à sa place son message auprès de vous, ô reine, puisque Mycène était sur notre chemin. » Pendant que Pylade parle, Oreste observe sa mère à la dérobée. Il ne la reconnaît pas. Elle non plus d'ailleurs. Elle ne me reconnaît pas, se dit-il. Il a suffi à ma sœur une boucle de mes cheveux, mais ma propre mère. Bizarrement, Oreste ne ressent aucune émotion. Il s'en étonne lui-même. Ni amour, ni haine, ni douleur, ni regret, rien. La vue des murailles de Mycène lui a arraché des larmes. Celle de sa mère le laisse presque indifférent. Enfant pourtant, il n'a cessé d'espérer son amour, de quémander un geste, un sourire. Clytemnestre ne lui adressait ni marque d'affection, ni reproche. Elle faisait comme s'il n'existait pas. Seule sa nourrice lui prodiguait amour et tendresse. Depuis que Clytemnestre a pris le pouvoir à Mycène, elle a beaucoup changé. Sa silhouette s'est épaissie. Elle s'habille de vêtements brodés d'or et de perles. Sa coiffure plus travaillée, ses bijoux plus nombreux. Tout indique la richesse. Sa soif de pouvoir semble comblée. Elle pose sur les visiteurs un regard légèrement condescendant. Elle leur demande la teneur de ce message dont ils sont porteurs. Oreste s'avance. Il tient une boîte dans ses mains, une boîte en forme d'urne. « C'est à propos de cela, » bredouille-t-il faussement intimidé. « On vient vous demander si vous voulez la garder ou si nous devons l'emporter jusqu'à Argos. » Il a pris un fort accent paysan, comme s'il venait de la montagne. Son imitation est si convaincante qu'Ulysse, qui suit la scène de loin, ne peut s'empêcher de sourire. Clytemnestre semble agacé par la balourdise de ce paysan. « Sois plus clair, mon ami. Viens-en au fait. Que contient cette boîte ?» Oreste prend un air encore plus abruti pour répondre. « Je vous demande pardon. Elle contient les cendres de votre fils, Oreste. » Comment Clytemnestre va-t-elle réagir à cette nouvelle ? Une étincelle. Il n'y a qu'une étincelle de joie dans le regard de Clytemnestre. Mais cette étincelle n'échappe pas au regard acéré d'Oreste. Aucun doute, sa mère est joyeuse en apprenant sa propre mort. D'ailleurs, durant cette nuit maudite où elle a assassiné Agamemnon, Clytemnestre a-t-elle été soulagée d'apprendre que son fils avait pu s'échapper ? On dit que c'est son amant, Égiste, qui avait programmé la mort de l'enfant pour être sûr de garder le pouvoir sans qu'un héritier vienne le lui disputer. Longtemps, Oreste a attendu, espéré sa mère. Le petit garçon grandissait loin de Mycène, mais chaque jour il se demandait si sa mère pensait à lui, s'il lui manquait, et surtout si elle était heureuse de le savoir sain et sauf. La réalité est plus cruelle. Clytemnestre ne cesse de redouter le jour où Oreste reviendra réclamer vengeance. Non seulement elle n'a jamais cherché à le revoir, mais elle vit comme s'il n'avait jamais existé. Oreste a grandi, a mûri, avec ce vide énorme, cette absence de mère, cette espérance aussi. Et aujourd'hui, l'éclat de joie dans le regard de Clytemnestre, apprenant sa mort, agit comme une brûlure. Il confirme à Oreste qu'il n'a rien à attendre de sa mère. La reine ne peut ouvertement se réjouir d'une telle nouvelle, mais elle est bien incapable de montrer la moindre tristesse. Oreste sent son cœur se durcir un peu plus. Quelques instants plus tard, Égiste arrive. Elle l'a envoyé chercher pour venir partager la nouvelle apportée par les deux voyageurs. À sa vue, Oreste blêmit. Il a toujours détesté cet homme qui a pris la place de son père. Un jour, Oreste avait à peine 7 ans. Égiste lui avait donné une gifle pour le punir de son insolence. Le garçon avait couru se plaindre auprès de sa mère. « Mère, ce n'est pas juste! Il n'a pas le droit de me frapper !» « Oh, tu as sûrement dû exagérer, mon chéri, » lui avait distraitement répondu Clytemnestre. « Mais ce n'est pas mon père, il n'a pas le droit !» La reine s'était levée d'un bond. « C'est toi qui vas aller t'excuser. Égiste n'est peut-être pas ton père, pourtant tu lui dois obéissance et respect comme à moi. » Mais ce qui avait le plus bouleversé le petit garçon était arrivé quelques jours après l'épisode cuisant de la gifle. Oreste jouait à cache-cache dans le palais. Il s'était dissimulé dans un grand panier à linge en osier. Des voix s'étaient approchées, celles d'un homme et d'une femme. « Tu es ma princesse, » disait l'homme. « Je t'aime, oh oui, je n'aime que toi !» murmurait la femme. Oreste s'était mise à trembler. Il avait reconnu la voix de sa mère. À travers le tressage d'osier, il avait aperçu l'homme à qui sa mère faisait cette déclaration d'amour. C'était Égiste. Oreste avait bondi de sa cachette. Il avait hurlé « Pas moi !» Puis il était parti en courant. Ce « pas moi » résonnait encore à ses oreilles. « Non, moi, je ne l'aime pas, lui. Non, moi, tu ne m'aimes pas, maman. » Et cet homme que sa mère aimait, cet homme qu'il avait chassé du cœur de sa mère et contraint à l'exil, était maintenant là devant lui. « Pas moi !» Ce cri surgit de l'enfance, jaillit et envahit toute la tête d'Oreste. Il lui brouille la vue. Le jeune homme saisit brusquement son épée et il tranche la tête d'Égiste. Stupeur, hurlement dans la salle du palais. Clytemnestre, livide, vient de comprendre qui est ce jeune homme. Et maintenant, il la menace de son épée. Les mains pleines de sang, il s'approche. Et alors elle crie, « Oreste, mon fils, tu ne vas pas tuer celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a nourri du lait de ses seins. Tu viens de mon ventre, ne l'oublie pas. » Mais Oreste continue d'avancer. Il ne voit plus rien, il n'entend plus rien. Sa tête est emplie d'un seul cri. « Pas moi !» La reine le supplie. « Oreste, écoute-moi. Ton père n'est pas le grand homme que tu crois. C'était un assassin. Il a envoyé ta sœur Iphigénie à la mort, sans état d'âme. Il a fait massacrer d'innombrables innocents. Ce n'est pas un héros. C'est juste un lâche, un tyran. » Mais Oreste n'entend rien. « Pas moi. Pas moi. » Maintenant, Clytemnestre s'est agenouillée près du corps d'Égiste. Elle sanglote. Et la terreur que lui inspire son fils, habité par cette folie meurtrière, semble s'estomper. « Oreste, tue-moi si tu veux. Tu as tué le seul homme que j'ai jamais aimé. Et jamais je ne regretterai d'avoir fait disparaître ton père. Il ne nous a jamais aimés, ni toi, ni tes sœurs, ni moi. Agamemnon n'aimait que lui. » Oreste est devenu méconnaissable. Son visage grimace, il est baigné de sueur. Il abat son épée sur sa mère sans avoir entendu un mot de ses suppliques. Le drame s'est déroulé si vite que personne n'a pu faire un geste pour intervenir. Une odeur abominable se répand soudain dans l'air. Des sifflements aigus emplissent l'espace. Comme si une multitude de serpents venait de se faufiler dans le palais. Ulysse s'est caché les yeux pour ne pas assister à ce meurtre. Il relève la tête, tremblant. Et il découvre trois femmes hideuses sur le seuil de la pièce. À la place des cheveux, des serpents grouillent sur leur tête. Elles sont enveloppées dans de longues capes noires. Les Érinies, les divinités qui punissent les assassins de leurs parents. Ulysse est épouvanté. « En as-tu assez vu, mon ami ?» lui demande Hermès. « Allez, filons maintenant. Oreste va devoir répondre de son acte. » Mais cela, c'est une autre histoire.